en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve David Mascret.
Professeur Lucien Israël, bonjour.
Bonjour.
Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui dans cette émission en habit vert qui nous permettra de tracer une partie de votre parcours, de votre itinéraire. Vous êtes professeur en médecine, professeur titulaire de cancérologie à l'Université de Paris 13.
Retraité.
Retraité. Vous présidez le laboratoire d'oncologie cellulaire et moléculaire humaine.
Que j'ai dû également abandonner lors de ma retraite.
Et que vous avez fondé. Et
oui.
Vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques.
Oui.
Je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui pour évoquer donc différents aspects de votre parcours et de votre œuvre, une œuvre qui comporte plus d'une quinzaine d'ouvrages en plus d'un très grand nombre de publications. J'aurais souhaité commencer par une évocation du commencement de votre enfance et de ce qui a pu peut-être, dans cette prime enfance, vous attirer vers ce parcours, ce métier qu'on appelle la médecine, qui est peut-être même plus qu'un métier, une vocation.
J'en ai un souvenir précis, en effet. Ce qui m'a attiré, c'est que ma mère n'a pas cessé de me répéter pendant mon enfance qu'elle voulait que je sois médecin. J'étais l'unique enfant de mes parents. Et bien, j'ai gardé ça en mémoire. Et par la suite, nous avons été séparés pendant la guerre. Et quand je suis revenu au moment des combats de la libération et que je suis rentré à Paris, j'avais pas retrouvé encore mes parents, mais je me suis inscrit en physique, chimie, biologie avant d'entrer en faculté de médecine. Je me suis pas posé de questions à l'époque. J'ai obéi.
Donc c'était d'abord et avant tout pour faire plaisir à votre mère, à vos parents.
À l'époque, oui, c'est ça, absolument.
Ça ne correspondait pas nécessairement à une image précise ou déterminée du médecin, de la
non,
figure humaniste.
Non, pas du tout, mais la vocation m'a saisi au cours de mes études et ne m'a plus lâché.
Une de vos autres caractéristiques est d'avoir été tout au long de votre parcours un homme de combat. Un combat que vous avez commencé à mener très tôt, au commencement de la guerre, disons, au moment de l'occupation. Pouvez-vous nous parler un peu de cette période de votre existence?
Oui, eh bien, nous étions depuis l'exode, mon père, ma mère et moi, à Brive-la-Gaillarde, où j'étais entré au collège, et d'une part, et d'autre part, dans l'équipe de football junior de l'Étoile sportive briviste, où j'avais donc des tas d'amis. Et puis, en novembre 42, lorsque les Allemands ont envahi la zone sud, nous sommes partis, ma famille et moi, mes parents m'ont emmené à Megève, c'est-à-dire en zone italienne, parce qu'il n'y avait pas la même attitude des Italiens que les Allemands vis-à-vis des Juifs.
Vous vous rappelez donc qu'une partie du territoire français avait été occupée par les Italiens.
Par les Italiens.
Le sud-est de la France et donc cette petite partie. Exactement. Du côté des Alpes.
Et puis, en septembre 43, alors c'est là que j'ai passé mon deuxième bac à Annecy. Et puis, en septembre 43, les Italiens ont signé un armistice avec les Alliés et les Allemands ont envahi la zone qu'occupaient les Italiens. À ce moment-là, nous avons dû également partir parce que nous étions très menacés. Ça n'a pas été facile et mes parents et moi, nous sommes séparés. Là, je venais d'avoir 17 ans et je suis parti avec des amis. J'avais une carte d'identité au nom de Jacques Cazot, un camarade de l'équipe de football auquel je rends hommage au travers des décennies et qui m'avait donné sa carte d'alimentation pour que je me fasse faire une carte d'identité dans le village où il était né en Corrèze. Et nous sommes donc partis, nous sommes passés par la Creuse où un de mes camarades avait des connaissances Et c'est à ce moment-là que j'ai été recruté par quelqu'un qui m'a dit, eh bien, tu as une carte d'identité en bon état, tu vas à Paris, tu vas à la gare du Nord, il y a une entreprise privée mais qui s'occupe des bagages et tu vas les transporter sans arrêt, mais tu relèveras les horaires des trains allemands, les numéros des régiments et tu les communiqueras à la personne dont je te donne le nom et qui appartient à cette entreprise privée et qui t'embauchera quand tu viendras de ma part. Donc, j'ai fait ça, et jusqu'au combat de la libération, et nous avons commencé, à ce moment-là, j'ai su par qui j'étais recruté, parce que tout ça s'était passé dans le silence
très grande
complet.
Discussion, bien évidemment, un cloisonnement.
Et je me suis trouvé dans un groupe FTP et en train de construire les barricades avenue des Gobelins que nous avons défendues.
Donc au moment des combats de Paris, c'est à partir du 15 août 44.
C'est ça, parce que ça a commencé le 19 août, mm-hmm. Et puis il y a eu après l'arrivée de la deuxième DB, et puis bon, tout s'est bien passé, mais pendant les combats de la Libération, ça a été assez dur. J'ai naturellement vu non seulement la deuxième DB, mais les soldats américains arriver. Et l'un d'eux, il distribuait des cigarettes, des aliments, etc. à ceux qui étaient derrière les barricades. Et puis je regardais son Colt avec beaucoup d'intérêt, il me l'a donné. Donc j'ai pu utiliser ce Colt après dans les jours qui ont suivi. Et puis la libération, l'arrivée du général de Gaulle. Nous sommes en août.
Le 25 août, la célèbre célébration à Notre-Dame avec
exactement,
les derniers francs-tireurs. Où...
Et donc en septembre 44, je ne sais pas où sont mes parents parce qu'on s'est quittés en partant de Megève.
Vous n'aviez plus de contact avec eux.
J'ai aucun contact avec eux.
Donc pendant plus d'une année.
Septembre 43, août 44.
Oui, c'est ça, quasiment une année. Oui.
Et puis. Le fin août 44, alors il commence à y avoir des trains. Alors je repars à Brive pour savoir ce qu'ils sont devenus et grâce à Dieu ils étaient là et on se tombe dans les bras parce qu'ils savaient pas non plus ce que j'étais devenu, on pouvait pas se téléphoner. Et fidèle à tout ce que ma mère m'avait demandé pendant des années, je rentre à Paris, je m'inscris au PCV.
Donc physique chimie biologie
c'était l'année qui précédait l'inscription en médecine et voilà.
Avant d'aborder cette deuxième phase en quelque sorte de votre vie étudiante de formation à la médecine, pouvez-vous nous donner quelques détails ou souvenirs d'impression de cette période quand même très troublée en France? Est-ce que vous étiez marqué par la peur ou au contraire l'espoir de pouvoir reconstruire quelque chose pour ce pays? Qu'est-ce qui vous a motivé finalement à cet engagement? Est-ce que c'était plutôt un concours de circonstances
patriotique? Ça m'a paru absolument normal. J'étais disponible, j'étais en forme et je ne pouvais pas supporter l'idée de cette occupation par les Allemands et de leur conduite, etc. Et donc j'ai accepté immédiatement. Je ne me rappelle pas avoir eu peur, mais d'un autre côté, je ne prenais pas tellement de risques. Moi, je transmettais des renseignements.
Ce qui était tout de même déjà très risqué.
La peur, ça a été derrière la barricade, d'une des deux barricades de l'avenue des Gobelins, le 19 ou le 20 août 44, je me rappelle plus, parce que on était dans une petite rue avec un groupe de gens que j'avais connus à la gare du Nord, on savait que derrière une des barricades que nous avions construites, il y avait un tank allemand et on m'a demandé d'aller voir à quelle distance il était. Donc j'ai couru depuis la petite rue en traversant le large trottoir et le tank n'était pas loin. Il y avait deux Allemands debout qui m'ont tiré dessus et j'ai vu le feu sortir des fusils. Mais ils m'ont complètement raté. J'ai couru en arrière très vite et mes camarades étaient blancs d'émotion et de peur. Mais bon, mais c'est tout. Sans ça, non, j'ai pas été habité par la peur pendant cette période. J'avais vraiment envie de faire au mieux.
On peut dire que là, c'était déjà une première expérience avec la mort, en tout cas une mort qui vous avait frôlé de près tout de même.
Oui, mais ça m'a pas tellement impressionné. J'étais très inquiet sur le sort de mes parents, mais non, j'avais pas peur pour ce qui me concernait. Je crois que je n'y pensais pas, tout simplement.
Et en tant que jeune homme à l'époque, quelles leçons avez-vous tirées de cette expérience de lutte, de combat, d'engagement dans la résistance?
Eh bien, écoutez, c'est pas tellement par rapport au combat, mais j'ai compris dès ce moment-là ce qu'était une culture nationale. Et c'est étonnant parce que mes parents étaient nés tous les deux à Salonique, dans la communauté juive qui arrivait, qui était au 15e siècle, était venue d'Espagne, n'est-ce pas, et qui parlait le ladino. Mais enfin, ils avaient appris tous les deux le français quand ils étaient petits, et donc ils sont venus en France en 1924 et je suis né en 1926. Mais ils ont tout fait pour que je sois au maximum imprégné de notre culture française. Et je me rappelle d'ailleurs le nom et les visages de mes maîtres de l'école primaire, puis ensuite au lycée Rollin, qui est devenu par la suite le lycée Jacques Decour, où je suis resté jusqu'en troisième, et puis alors la guerre, on est parti. Mais donc, à travers ce qui a été la victoire, c'est cette marche de Gaulle descendant les Champs-Élysées, etc. Bon, j'étais...
Une sorte de communion nationale dans
complète,
un moment
absolument
unique.
Complète, et en plus ça ne m'a jamais quitté. Mais j'ai été investi, même sans l'avoir décidé, mais j'ai perçu l'impact absolument fantastique de la joie de la victoire. Voilà.
Alors c'est dans cette joie de la victoire, à quelques semaines près, que donc vous entamez vos études en médecine.
Alors oui.
Au début, donc septembre 44.
Septembre 44, le PCB.
Comment celle-ci donc se déroule-t-elle? Que cela représentait-il à l'époque de faire médecine?
Alors, bon, je fais d'abord cette année de PCB, et puis je m'inscris en médecine, et comme j'avais passé mon deuxième bac en 43 à Annecy, et qu'on pouvait le prouver, et bien, j'ai eu le droit de faire PCB première année en un an. Et donc, en fait, de sauter la première année, donc j'ai commencé la médecine en deuxième année. Et bon, j'avais toutes les raisons de faire au mieux, de m'intéresser à ce qu'on m'apprenait, puis c'était très très excitant. Et j'ai passé les concours, le concours d'externat, puis quelques années après le concours d'internat, on avait droit à 5 concours et j'ai été reçu au 3e.
Ce qui était exceptionnel à l'époque.
Non, c'était pas exceptionnel. Il y avait des gens qui étaient très brillants et qui étaient reçus au premier. Moi, au premier, j'ai pas été reçu. Au 2e, j'ai été provisoire, c'est-à-dire que j'avais le droit d'exercer les fonctions d'interne, mais pour un an seulement. Et au 3e concours, j'ai été reçu et donc j'ai commencé une carrière de médecine. Et par la suite, alors il y avait tous les échelons, ça n'existe plus tellement aujourd'hui, ça a été très modifié, mais chef de clinique, assistant des hôpitaux, professeur agrégé, professeur titulaire, enfin bref. Mais donc je me suis complètement investi là-dedans parce que j'ai eu des maîtres absolument extraordinaires, surtout en cours d'internat. Et donc j'ai été façonné par eux d'un certain point de vue, je dirais, sans m'en rendre vraiment compte, mais ils m'ont donné le goût de comprendre et de faire au mieux. Voilà.
par une sorte de, d'imprégnation et en même temps de philosophie qui se
découlait
naturellement de leur manière d'exercer.
Oui,
ou de,
c'est ça qui émergeait ensuite. Ils vous donnaient d'abord les réflexes et puis surtout l'exemple. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai eu des maîtres qui étaient tout à fait extraordinaires. Je peux quand même en citer quelques-uns. Leur mémoire. Enfin, Robert Worms, qui avait été le médecin du général de Tassigny, et puis qui ensuite a eu un service à la Riboisière, où j'ai été interne, Jacques Decourt, qui était un endocrinologue, Paul Chevalier, qui avait inventé la spécialité d'hématologie, de maladie du sang, qui l'avait isolée, et... tout ça était, c'était des êtres absolument. Étienne Bernard, qui était le fils de Tristan Bernard, et qui a été pneumologue. C'est dans son service que j'ai commencé à m'occuper de cancer et que j'ai été nommé professeur agrégé. Donc voilà, tout ça, c'est avec un investissement. On ne s'en rendait pas compte, ni mes condisciples, ni moi, mais on travaillait 10 heures par jour et 6 ou 7 heures le dimanche. Et puis, et quand on était chez soi, eh bien, on ouvrait les livres et les revues pour en apprendre encore davantage, s'informer de ce qui se faisait, etc.
Sorte de passion de la recherche qui vous imprégnait, ou de la découverte de...
Absolument, et de l'envie de faire comme nos maîtres. C'est de faire au mieux, de faire des diagnostics difficiles, d'imaginer comment associer des traitements pour obtenir le meilleur résultat possible. Enfin, c'est cette époque-là.
Qu'est-ce qui vous a orienté à partir de ces années vers cette spécialisation qui était la pneumologie ?
Vous savez, les places étaient au choix de semestre en semestre, et on retenait ses places chez un patron pour telle date, s'il avait une place d'interne libre à ce moment-là. Bon, et c'est une sorte de hasard, enfin de choix, mais de hasard aussi, qui a fait qu'il y avait une place libre pour mon dernier semestre d'internat chez Étienne Bernard, qui était pneumologue. Et par conséquent, je me suis formé à la pneumologie. J'ai été nommé chef de clinique dans son service. J'ai participé à la création du premier centre de réanimation respiratoire.
Donc, c'était une technique tout à fait nouvelle à l'époque.
Oui, alors avec des appareils qui permettaient de faire une respiration artificielle et qui étaient relativement simples, etc. Bon, et bon, tout ça évidemment s'est développé très vite par la suite. Et puis il n'y avait pas à l'époque de service de cancérologie à l'assistance publique de Paris. C'était pas, il y avait des cancers dans beaucoup de services, mais qui relevaient d'une spécialité d'organes. Et puis donc, moi, j'avais en charge des cancers du poumon, et je pouvais pas supporter des cancers du poumon qui étaient dans un service de médecine, parce que ou bien ils avaient récidivé après une intervention chirurgicale, ou bien ils n'avaient pas pu être opérés, et donc qui étaient dans une situation extrêmement délicate et mauvaise. Et ce que nous avions tous envie de faire, c'était d'obtenir les meilleurs résultats possibles, de les garder le plus possible, en même temps d'améliorer leur morale, de les soustraire à l'inquiétude, de leur donner le sentiment qu'ils étaient des personnes normales et qu'on leur devait le respect. Bon, le fait d'avoir soigné des maladies graves m'a donné une vision de la médecine qui n'est pas celle de tout le monde, parce que c'est pas, on n'a pas les mêmes impressions si on fait de la dermatologie ou de la rhumatologie, par exemple, n'est-ce pas? Là, c'était vraiment se battre pour garder des gens en vie et en même temps pour les rassurer. Et donc, ça a été une expérience tout à fait particulière, et je rends grâce au hasard qui m'a permis de m'engager de ce côté-là.
Nous allons venir d'un petit peu plus près à ces questions de maladie et de cancer, parce que c'est un mot qui a beaucoup frappé et continue de frapper l'imaginaire des Occidentaux. C'est la première cause de mortalité en Europe, en France également. Qu'avez-vous retiré de ce contact auprès des patients, de personnes affaiblies, parfois gravement atteintes, à une époque où le mot cancer pouvait être, dans l'esprit de certains, plutôt un signe de condamnation, ou en tout cas de difficulté, et souvent en tout cas synonyme de souffrance, souffrance forte?
Écoutez, donc je me suis trouvé plongé là-dedans parce qu'il y avait des cancers du poumon dans le recrutement d'un service de pneumologie, et il se trouve que à cette même époque, c'est-à-dire au milieu des années 50, on pouvait considérer que la tuberculose était vaincue parce que il y avait trois médicaments qui était la streptomycine, le PAS et l'isoniazide, le rémifon. Et les physiologues avaient trouvé qu'il était normal d'utiliser les trois médicaments en même temps.
Simultanément, donc.
Simultanément. Et donc, de cette façon, on a guéri des tuberculoses qu'on ne parvenait pas à guérir en donnant un médicament puis l'autre, etc.
C'était le début d'une forme de trithérapie.
Exactement, une trithérapie. Et ça s'est répandu dans le monde entier, cette trithérapie de la tuberculose, à toute vitesse. Et ça n'a posé aucun problème aux pneumophysiologues. Alors, ayant des cancers du poumon qui étaient en difficulté, quand j'étais élève d'Étienne Bernard, j'ai commencé, parce qu'il y avait trois médicaments de chimiothérapie qui avaient été rendus disponibles au fil des années à cette époque, qui étaient l'endoxan, le fluorouracile et le méthotrexate. Et moi, j'ai décidé de faire comme on fait pour la tuberculose, c'est-à-dire de les associer. Dans un service de pneumologie, les cancers du poumon étaient des cancers avancés, parce que sans ça, ils avaient été opérés. Mmh. Donc, j'ai décidé de leur donner les trois médicaments en même temps.
Ce qui était une innovation.
Complètement, mais je m'en étais même pas vraiment aperçu. Simplement, je m'en suis aperçu le jour où une cancérologue d'un des centres anticancéreux réputés est venue faire une conférence dans le service sur les cancers du poumon et nous donner les résultats de chacun des trois médicaments séparés. Et je lui ai dit que moi, j'avais commencé depuis plusieurs mois à associer les trois médicaments en même temps dans les cancers du poumon avec des résultats que je trouvais intéressants. Elle m'a répondu que j'avais l'esprit complètement gauchi.
C'est intéressant.
C'était pas dans les habitudes à l'époque des cancérologues en 1956-57 de donner les trois médicaments en même temps. Donc, je suis devenu cancérologue petit à petit, mais sans passer par un service de cancérologie. Donc c'était une situation tout à fait anormale, mais j'ai continué. Étant donné que grâce à ces traitements, nos patients survivaient nettement plus longtemps, il n'y avait plus de lit assez libre dans la salle que m'avait confié le professeur Étienne Bernard, et donc j'ai dû inventer en quelque sorte la chimiothérapie ambulatoire, c'est-à-dire...
C'est autre nouveauté.
Autre nouveauté, dire aux patients qui avaient été améliorés, écoutez, vous rentrez chez vous et vous venez une fois par semaine pour qu'on vous fasse des perfusions en continuant ces traitements. Mais le reste du temps, donc, vous êtes à domicile avec les médicaments associés. Et on avait dû pour cela réquisitionner avec ma surveillante de l'époque une cage d'escalier avec des patères auxquels on accrochait les flacons de perfusion. Et les patients étaient vaguement allongés, puis ils rentraient chez eux. Je peux vous raconter la suite, si vous le souhaitez, avec le ministère de la Santé.
Absolument, oui.
Eh bien, un jour, parmi mes patients, j'ai eu le beau-frère du ministre de la Santé de l'époque, qui était un homme célèbre, Maurice Schumann. Et il a subi cette trithérapie, il a été amélioré, il est rentré chez lui, il continue à venir. Mais nous donnions des médicaments, étant donné que ça n'avait pas d'existence légale, nous disions à la pharmacie hospitalière que c'était pour des malades hospitalisés, ces traitements, parce qu'on ne les trouvait pas en pharmacie.
C'était la seule solution pour les heures administrées.
C'était la seule solution. Alors un jour, j'ai reçu un coup de téléphone le soir chez moi de Maurice Schumann, qui me demandait des nouvelles de son beau-frère, que je lui ai donné, puis je lui ai dit, monsieur le ministre, permettez-moi de vous expliquer ma situation, je suis dans l'embarras et dans l'illégalité, voilà ce qui se passe et comment nous soignons votre beau-frère et tous nos autres malades. Est-ce que vous pourriez me recevoir pour qu'on mette au point une solution? Il m'a dit, c'est inutile, continuez, je vous couvre. Et donc, la polychimiothérapie ambulatoire est née de cette façon.
Oui, c'est une très belle histoire, très instructive quant aux procédés par lesquels on arrive à trouver des stratagèmes ou des voies de contournement pour faire avancer la science. Parfois...
Oui, enfin, parce qu'on était tous obsédés par la volonté de donner toutes ses chances à chaque patient, de faire le maximum. En même temps, on avait l'impression que d'autres médicaments allaient venir, ce qui s'est produit par la suite. Et donc, nous disions à nos patients, écoutez, si nous ne pouvons pas vous guérir, nous essayons de vous améliorer ou de vous stabiliser, ou même de ralentir l'évolution en attendant que de nouveaux médicaments arrivent. Et ils étaient évidemment absolument preneurs tous de cette stratégie. Étant donné qu'on se battait pour eux, ils se battaient avec nous, ils acceptaient les inconvénients parce que c'était pas des traitements tellement faciles à supporter. Mais bon, nous étions alliés.
Oui, parce que toute cette période des années 60, 70, 80 est une période de formidable avancée dans la recherche et la lutte contre le cancer. Alors, en 1976 est mis en évidence le premier oncogène par le chercheur français Dominique Stélin. En 82, on a la connaissance de la fonction d'un gène impliqué dans la transformation cancéreuse pour produire un facteur de croissance, c'est-à-dire une prolifération cellulaire. Quelles ont été les autres grandes étapes de cette avancée dans la lutte contre le cancer?
Il y a eu aussi... Enfin, il y a d'abord le nombre de médicaments chimiothérapiques n'a cessé d'augmenter, de sorte qu'il y en avait déjà à ce moment-là 7 ou 8 qu'on pouvait associer différemment. D'autre part, l'immunothérapie est apparue à ce moment-là avec les interleukines et d'autres moyens. Et on pouvait donc à ce moment-là envisager d'associer chirurgie et chimiothérapie. C'est un Américain qui a inventé le concept de chimiothérapie néo-adjuvante, c'est-à-dire chimiothérapie précédant une chirurgie pour rendre celle-ci plus facile et donc plus opérante. Et j'ai été recruté dans ces groupes coopérateurs américains. Le premier s'appelait l'Eastern Cooperative Oncology Group parce qu'il réunissait tous les centres anticancéreux de la côte est des États-Unis. Et il disait que j'étais « I was the most eastern member of the group ». Celui qui était le plus à l'est. Donc j'ai une fois par mois, pendant des années, j'étais là-bas à des réunions du groupe où on recensait les résultats, on discutait les stratégies, etc. J'ai connu à l'époque les motels des aéroports de presque tous les États-Unis, enfin toute la côte Est, parce qu'on se réunissait souvent pour 2-3 jours.
Il faut souligner là le caractère international de la recherche, enfin cette importance de l'échange.
À ce moment-là, j'étais le seul étranger dans ces groupes, mais il y avait aussi après des groupes coopérateurs qui se sont formés en Europe, et puis tout ça s'est rencontré, a fusionné, etc. Bon. Mais puisque nous parlions de thérapeutique, je voudrais dire ceci à ceux qui éventuellement nous écouteront. Aujourd'hui, le savoir médical double tous les 4 ans, ce qui est
une croissance exponentielle.
Absolument exponentielle, extraordinaire. Et en cancérologie, il y a des nouveautés, plusieurs différentes par an. Et je peux dire aujourd'hui que dans un laps de temps assez restreint, d'un petit nombre d'années, on pourra dire aux patients, c'est pas grave, c'est un cancer.
C'est une très bonne nouvelle.
Oui, ça j'en suis certain parce que ça va à une vitesse incroyable. On en sait de plus en plus et on sait aussi maîtriser des cas qu'on ne savait pas maîtriser il y a encore 3 ou 4 ans. Donc ça va très très vite.
En même temps, un des grands progrès qui a eu lieu dans ces années, mais qui reste aussi sans doute une des clés, c'est la question du dépistage.
Alors évidemment, un dépistage systématique permet de déceler une tumeur avant qu'elle se soit étendue ou avant qu'elle ait acquis des capacités de reproduction en dépit des médicaments, etc. Et par conséquent, c'est très important, notamment le dépistage systématique, par exemple des cancers du sein, permet de déceler des tumeurs qui n'ont encore pas envahi.
Ou sont pas visibles ou pas palpables.
Oui, exactement, et donc de les opérer à temps, etc. Mais il y a un deuxième problème qui doit être aussi abordé et qui l'est moins, c'est celui de la prévention. J'ai fini dans ma carrière par trouver ce que c'était que le cancer. J'ai quelques minutes pour
j'allais
vous l'expliquer.
J'allais y venir, absolument.
Eh bien, écoutez, c'était pas dans ma spécialité, ça, mais je m'interrogeais toujours sur qu'est-ce que ça voulait dire que le cancer. J'ai trouvé la réponse à cette question. Je l'ai publié l'année de ma retraite dans un journal américain qui s'appelle The Journal of Theoretical Biology, mais je n'en ai plus entendu parler, mais en tout cas, je le résume en quelques mots. Les microbes ont des systèmes génétiques qui leur permettent, en cas d'agression environnementale et de modification de leurs propres gènes par des substances qu'on appelle des radicaux libres, aussi par la température, l'absence de nourriture, etc., leur permettent de se reproduire en acceptant les anomalies, plutôt que de s'arrêter de se reproduire et de mourir, de façon que la lignée persiste.
Donc ce serait une stratégie de survie, presque.
Et c'est exactement une stratégie de survie des cellules isolées, des cellules individuelles que sont les microbes. Or, la nature n'a pas seulement inventé pour chaque espèce des gènes différents, elle a utilisé et transmis les gènes déjà fabriqués, et nous avons des gènes, nous Homo sapiens sapiens, dont les homologues existent chez les bactéries. Il y en a 6 ou 7. Or, un chercheur français au début des années 80 ou des années 70, je ne sais plus, qui est d'ailleurs nobélisable, a découvert ce qu'il a appelé le système SOS des bactéries, c'est-à-dire que en cas d'agression qui menace leur existence, il y a d'autres gènes qui étaient jusque-là réprimés qui se mettent en place,
qui s'expriment
pour permettre la division des cellules et donc la génération de nouvelles cellules, la maintenance de la lignée en dépit des anomalies. Eh bien, en lisant, parce que c'était pas ma partie, j'ai découvert que un certain nombre des gènes du système SOS continuent d'exister et chez les mammifères, mais aussi chez l'homme, et que ils contribuent quand ils sont réveillés, quand ils sont exprimés, à permettre la division des cellules cancéreuses. Ce que la nature n'avait pas prévu, c'est que le développement des cancers finit par tuer l'hôte. N'est-ce pas? Mais ces cellules se donnent avec les mêmes gènes que les bactéries les moyens de s'assurer une lignée le plus longtemps possible.
Une sorte de supplément de vie.
Voilà. Donc le cancer, finalement, c'est le résultat de quelque chose imaginé par l'évolution pour permettre aux lignées cellulaires de survivre à des dommages.
Thank you.
c'est très intéressant, vous expliquez dans un de vos ouvrages « Cancer, les stratégies du futur » paru en 1989. Vous dites « Une même lignée cellulaire garde en mémoire plusieurs événements qui s'additionnent pour qu'un cancer apparaisse, de sorte que si nous vivions tous 200 ans, nous aurions tout le temps de faire des cancers. »
Ah oui, ça c'est sûr. Mais alors justement, j'en venais à la prévention. On peut prévenir les dommages, beaucoup des dommages qui vont modifier les gènes et rendre les cellules cancéreuses, d'une part en protégeant l'environnement et d'autre part en protégeant sa nutrition. Et je voudrais raconter une expérience. Un jour, à Paris 13, j'avais donc le service de cancérologie de l'hôpital Avicenne à Bobigny. Mes infirmières, qui en avaient assez de voir des cancers du poumon, sont allées dans les écoles maternelles du département, avec l'autorisation des directeurs et des institutrices, pour dire aux mômes, surtout ne fumez pas, parce que voilà ce que ça donne, etc. Et ça a eu un impact absolument extraordinaire parce que nous avons appris que les enfants arrivaient chez eux et se mettaient à pleurer en disant « Papa, fume pas, tu vas mourir ». Et on s'est rendu compte que c'était l'âge auquel il fallait donner les premiers éléments d'attitude de prévention. Et du reste, j'aurais souhaité qu'on fasse la même chose vis-à-vis de l'obésité, vis-à-vis de la drogue, etc. C'est-à-dire qu'on en parle aux enfants pour leur donner le comportement réflexe voulu. Mais j'ai essayé auprès d'un ministre de l'Éducation de faire avancer ce programme, mais j'ai pas du tout été écouté. Pour les cancers non plus, mais c'est dommage parce qu'on pourrait, en enseignant tôt les attitudes préventives, certainement diminuer le nombre de cancers. D'un autre côté, comme je vous le disais, les thérapeutiques avancent et un jour, on va le maîtriser, un jour assez proche, je crois.
Ce qui est très intéressant dans ce que vous soulignez là, ou mettez en évidence, c'est ce lien entre le déclenchement tardif ou ces maladies de l'âge adulte, voire de la sénescence, et puis ce qui se passe dans la toute petite enfance, dans les premières années, ce lien entre l'âge lointain et l'âge précoce, finalement, qui montre qu'il y a un lien indissoluble entre ce que nous faisons et ce que nous subissons.
Et c'est l'âge auquel on peut donner des bonnes habitudes, n'est-ce pas ? Et donc on pourrait faire reculer un certain nombre de fléaux de cette façon. Mais en tout cas, actuellement, le nombre des cancers augmente, mais il augmente d'une part parce que l'environnement se dégrade, mais d'autre part parce que la longévité augmente. Autrefois, on pouvait mourir d'une infection quelconque ou d'un accident dont on ne pouvait pas réparer chirurgicalement les résultats. Et maintenant, la longévité augmente et le nombre de cancers croît régulièrement avec l'âge, avec à ceci près que après 85 ans, le nombre de cancers diminue parce que ceux qui ont atteint 85 ans en bon état, c'est qu'ils ont les bons gènes. C'est pas...
Autre très bonne nouvelle pour une certaine partie de l'humanité.
Oui.
Et d'ailleurs, vous développez une thèse tout à fait intéressante et forte sur cette analogie ou ce parallélisme qui peut s'opérer entre d'un côté le cancer, d'un autre les maladies de la sénescence, Parkinson, Alzheimer, qui sont aussi d'autres maladies modernes qui touchent fortement les populations.
Mais nous avons des systèmes qui nous protège contre l'usure des gènes. Mais ces systèmes eux-mêmes s'usent avec l'âge. Et c'est la raison pour laquelle le taux de cancer, c'est-à-dire d'anomalies génétiques susceptibles de les produire, augmente avec l'usure de l'âge.
Et donc, vous dites même plus simplement que le cancer serait une sorte de rébellion de la cellule contre un ensemble de stress extérieur et la sénescence, une sorte de suicide.
La sénescence, écoutez, alors non, si on disons un mot de la sénescence, lorsqu'une cellule se divise, il y a une substance qui empêche les chromosomes de se séparer les uns des autres et de s'effilocher et qu'on appelle les télomères. Mais à chaque division cellulaire, les télomères s'usent et ne se réparent pas. Il y a donc une limite biologique à l'existence et dans l'espèce humaine, elle est de 120 ans. Mais Madame Calment avait atteint 122 ans, mais bon, c'est à 120 ans, il n'y a plus de télomères. Alors, les scientifiques se sont dit, mais il n'y a qu'à utiliser l'enzyme qui fabrique les télomères, la télomérase, et puis on va comme ça, on va atteindre l'immortalité. Mais quand on met de la télomérase dans une cellule âgée, elle devient cancéreuse.
Autrement, très intéressant.
Autrement dit, la nature a fixé un terme à la vie de tout être vivant, y compris les hommes. Et donc, la médecine ne peut se proposer comme espoir ultime, c'est de permettre à tout être vivant d'atteindre 120 ans en bonne santé et de s'éteindre brusquement, mais on n'ira pas plus loin.
On peut rappeler de façon assez amusante que ce chiffre de 120 ans est celui que l'on retrouve dans le texte de la Genèse, qui dit que...
Eh bien, oui.
Dieu fixa la limite de la durée humaine à 120 ans.
Eh bien, oui, il savait ce qu'il en était des télomères, n'est-ce pas ?
Ce combat acharné, cet autre de vos grands combats donc, contre le cancer, contre la maladie, vous a amené à non seulement bien évidemment fréquenter de très près les malades, mais aussi à côtoyer quelque part la mort, et vous avez été et vous êtes un combattant acharné d'une certaine, d'un certain renoncement face à la mort.
Absolument, d'une part, là. Parce que, en effet, en se battant et en mettant tout ce qui est possible en œuvre et au besoin en inventant quelque chose, on peut juguler ou bloquer une maladie, voire la ralentir, mais surtout, je me suis rendu compte, au cours de ces années passées à traiter des maladies graves, que les patients qui sont pris en charge correctement, auxquels on donne le sentiment que ce sont des êtres humains à part entière et que on ne les laissera pas souffrir, mais qu'on mettra aussi tout en œuvre pour les guérir, et si on peut pas les guérir, pour les prolonger, etc., eh bien, ils acceptent cette vision et cette stratégie, ils en sont reconnaissants aux médecins et aux infirmières qu'ils incarnent, et ils participent.
Cette participation est essentielle.
Elle est absolument essentielle, mais juste, alors, j'ai raconté dans un livre, je sais pas si j'ai le temps de le faire ici, que j'ai été soumis à un seul cas de demande d'euthanasie, écoutez, il s'agissait d'un homme âgé qui avait un cancer de l'estomac, et lorsque il est entré dans le service, je suis allé le voir avec mes élèves, comme tous les matins, et il m'a dit, docteur, tuez-moi. Alors, je lui ai dit, écoutez, je regrette, on ne fait pas ça ici, on va voir ce qu'on peut faire pour vous. Bon, c'était un cancer avancé. Alors, il m'a dit, docteur, vous êtes un lâche. Je lui ai dit, peut-être tout ça se passait devant les infirmières, les élèves, etc. Bien.
On peut s'imaginer la scène, effectivement.
Et on a mis le traitement en route. Et puis je rentre chez moi le soir et mon épouse me dit « Tu as reçu dans ton service un homme qui s'appelle un tel et qui était mon patron dans la résistance à Lyon. C'est un homme extraordinaire, un courage considérable et il a le droit de choisir son destin et il t'a demandé l'euthanasie, il faut que tu acceptes. »
Vraie tragédie grecque, ce que vous nous contez.
Oui. Et alors, j'ai dit à ma femme qu'il n'en était pas question, ce dont elle se doutait d'ailleurs. Alors, pendant 3 semaines, j'étais assailli le matin par le patient et le soir, quand je rentrais chez moi, par mon épouse. Alors, un jour, j'ai dit, je me suis fait donner une ampoule par une infirmière. Oh, je peux le raconter maintenant, dans le livre que j'ai écrit, j'ai dit que je le dirais pas, mais bon, c'était du sérum physiologique, c'est-à-dire rien du tout, quoi. Bon, mais j'ai dit, écoutez, moi, je vais pas vous tuer, mais voilà, vous prenez cette ampoule. Alors, il la regarde et il me dit, docteur, c'est de l'eau. Je lui dis, peut-être.
Bon. Ce prof avait gardé une certaine lucidité.
Et alors, il est mort, en effet, une quinzaine de jours plus tard, parce qu'on n'a pas, c'était trop avancé, mais nous avons retrouvé l'ampoule dans le tiroir de sa table de nuit. n'est-ce pas ?
Donc il n'y avait pas touché.
Il n'y avait pas touché. Et c'est la seule fois où j'ai été personnellement exposé à une demande d'euthanasie. J'ai reçu des lettres posthumes, ce qui est tout à fait extraordinaire, de gens qui me disaient... Bon, ça s'est pas bien passé, mais je vous remercie. Vous m'avez permis d'obtenir ceci, de terminer l'éducation de mes enfants, etc. Bon, et ils se battaient avec nous, et mes élèves font la même chose maintenant. Alors, nous avons constaté au fil des années qu'il y avait quelques cas où les familles demandaient l'euthanasie, parce qu'elles ne pouvaient plus supporter la vision et l'inquiétude, etc. Bon, les patients, ben non. Le cas dont je vous ai parlé a été l'unique cas. Par conséquent, je suis persuadé que si on donne à tout patient son véritable statut d'être humain et qu'il comprend qu'on est prêt à tout, d'une part pour ne pas le laisser souffrir, et aujourd'hui on peut maîtriser toute douleur, n'est-ce pas ? Et d'autre part faire le maximum pour le tirer de là, ou bien même pour attendre que de nouveaux traitements arrivent, eh bien il l'accepte, il participe, il coopère. Donc, l'euthanasie me paraît d'une part absolument inutile, d'autre part un geste extraordinairement dangereux du point de vue de la représentation de ce que sont les êtres humains. Et on va pouvoir dans peu d'années, on commence même maintenant, dans les cas comme le petit Humbert, en injecter des cellules souches dans les cerveaux. Il se trouve qu'il a été prouvé assez récemment que dans notre moelle osseuse, nous avons des cellules souches multipotentes.
C'est-à-dire capables de se déployer dans différentes
comme
directions.
Oui, c'est-à-dire que si on les soumet à des conditions de culture telles qu'elles donneront ou bien des neurones ou bien des cellules du pancréas, etc. Et on les injecte, etc. Bon, donc il n'y a aucune raison maintenant de tuer quelqu'un. N'est-ce pas ? La médecine est en train de faire des progrès extraordinaires, mais d'autre part, depuis qu'elle existe, elle signifie l'aide procurée à nos semblables pendant qu'ils sont vivants, et au maximum, le respect qu'on doit à toute vie, etc. Et on ne peut pas laisser la médecine se transformer en gens qui méprisent cette vision de leur métier. C'est trop dangereux. Donc, je me suis mis à militer contre l'euthanasie depuis des années et des années sur la base de l'expérience que je vous dépeins.
Parce que ce que vous soulignez en même temps dans votre ouvrage « La vie jusqu'au bout, euthanasie et autres dérives » paru en 1993, c'est que d'une certaine manière, ce renoncement face à la lutte contre la maladie ou à une souffrance extrême qui sert de justificatif à l'introduction de l'euthanasie dans certaines pratiques, c'est aussi une transformation très profonde de notre regard sur la mort. Vous écrivez « L'homme d'Occident, en cette fin du XXe siècle, n'est-il plus en état mentalement, spirituellement, d'assister ceux qu'il aime et qu'il a aimés, de leur fermer les yeux et de baiser un front que la vie a déserté ? Imposer à toute une civilisation, au hasard d'une majorité de rencontres, de se conduire comme si l'interrogation métaphysique n'existait pas, est non seulement dangereux, mais infantile. » Vous soulignez là quelque chose de très profond.
Absolument, il y a aussi effectivement toute une dimension spirituelle. Vous voyez qui est Stephen Hawking, ce physicien...
Très grand physicien britannique.
Oui, très handicapé. Eh bien, son mathématicien Roger Penrose a écrit un livre où il parle de la survie des gens, etc. Il aborde des problèmes de biologie et il dit ceci. Nous avons 100 milliards de neurones. Chaque neurone a 10 000 connexions possibles avec les suivants, mais ces connexions sont changeantes au fil des jours, des pensées, des problèmes qui se posent, etc. Et donc le nombre de circuits potentiels dans un cerveau humain est de 10 puissance 80. Il ajoute ce que je ne savais pas, c'est un chiffre supérieur à celui des particules dans l'univers. Et donc, dit-il, si le soleil explose dans 5 milliards d'années comme on le prévoit, il n'y aura pas eu deux humains semblables. Par conséquent, un être humain, c'est quelque chose d'absolument unique. et on ne peut que se battre pour le préserver, l'améliorer, lui permettre de durer, de s'observer lui-même et d'observer autrui. On ne peut pas le détruire, c'est pas possible.
Et mystérieusement, effectivement, on retrouve dans cette loi des très très grands nombres, 10 puissance 80, vous citiez, une sorte de jonction entre l'infiniment grand, l'infiniment petit et l'infiniment complexe du cerveau.
Absolument, l'infiniment complexe. Jusqu'à preuve du contraire, c'est ce qu'il y a de plus complexe dans l'univers, un cerveau humain. Et par conséquent, ça mérite, avec tout ce qui peut l'habiter, et donc ça mérite un respect. Et la spiritualité font qu'un médecin ne peut pas se prêter à l'euthanasie, qui n'est obtenue que par découragement. Et il y a eu une étude américaine qui est parue il y a une vingtaine d'années, qui était très intéressante. Et il y avait des demandes d'euthanasie, et ils ont décidé de donner aux patients qui demandaient l'euthanasie, d'une part des produits antidépresseurs, mais d'autre part une psychothérapie faite par des gens qui connaissaient bien ce problème, et ils se sont aperçus que la plupart de ceux qui étaient ainsi traités renonçaient à leur demande. C'est un signe de peur et de découragement, mais aussi la sensation d'être
inutile, d'être seul.
Oui, exactement, d'être seul, d'agacer les médecins et les infirmières, n'est-ce pas aussi. Il y a un collègue dont je ne citerai pas le nom qui avait été connu pour dire, en passant devant des patients qui étaient dans un état précaire, celui-là, je ne veux plus le voir demain. Ça veut dire un message aux infirmières.
C'est pas un grand motif de réconfort.
Oui. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est le respect pour autrui et le respect pour la médecine qui a été inventée il y a plus de 2000 ans nous empêche d'accepter, de tolérer ce genre de conduite.
Parce que ce que vous soulignez avec force, c'est que précisément, la demande n'émane que très rarement des patients eux-mêmes, mais d'abord et essentiellement de l'entourage.
De l'entourage.
Donc, cela signifie qu'en fait, c'est notre regard sur la mort qui est profondément altéré ou changé.
Exactement. Les gens ne se savent mortels, ne perçoivent vraiment qu'ils sont mortels qu'à partir de certaines expériences. Ils sont pas censés habiter par cette idée. Et ces expériences, ils ne les tolèrent pas, il faut les supprimer de leur paysage mental.
Ce qui rejoint le thème déjà développé par Philippe Ariès, historien des religions, historien de la mort en Occident, une sorte d'évacuation générale de la mort dans nos sociétés.
Oui, absolument, absolument. Donc, en tout cas, en tant que médecin des maladies graves, j'ai découvert que je n'avais pas le droit de faire cela et que si je me conduisais et si mes collaborateurs se conduisaient comme il convient avec des patients, même dans une situation grave, ils ne le demandaient pas.
Pourtant, l'un des arguments à souvent avancer pour justifier ces pratiques, c'est le respect de la dignité de l'individu libre de choisir.
La dignité d'un être humain ne dépend pas de sa situation corporelle. Elle est très au-delà.
Et cela souligne aussi peut-être une difficulté de nos sociétés modernes à quelque part vouloir toujours jouer sur le registre du compassionnel, de l'affectif.
Soi-disant, oui, c'est ça. Non, mais bon, c'est vrai qu'il y a des... si on euthanasie un patient qui est dans un état relativement inquiétant, et quelques membres de sa famille risquent d'être soulagés, là. Et c'est pour eux qu'ils le demandent.
Oui, en fait, on soigne la famille, mais on ne soigne pas le patient
exactement,
dans ce type de solution.
Exactement.
J'aimerais venir à un dernier thème qui est aussi un autre de vos combats, qui est le combat contre l'illettrisme. En quoi, en tant que médecin, vous êtes-vous senti concerné par ce problème ?
Alors écoutez, là je dois reconnaître que je suis complètement sorti de ma spécialité. J'ai écrit un livre qui est paru en 95, je crois, qui s'appelle « Cerveau droit, cerveau gauche, cultures et civilisations ».
Et éditions Plomb.
J'ai écrit ce livre parce que je trouvais pas à le lire. Je voulais savoir ce qu'était un cerveau humain, ce qui se passait, comment ça fonctionnait, le registre des émotions, mais aussi des idées, etc. Donc j'ai lu quelques centaines d'ouvrages. Et j'ai appris, en particulier à la suite des travaux de Sperry, un neurologue américain qui a eu le prix Nobel pour ça.
En 1981.
que nos deux hémisphères cérébraux avaient donc des fonctions différentes. Chez les droitiers, pour schématiser, le cerveau gauche, c'est le cerveau analytique qui analyse, par exemple, le langage, qui est en magazine la sémantique, le registre lexical, le vocabulaire, etc. Et le cerveau droit, c'est celui des émotions, la beauté, la laideur, la musique et la mémoire de la musique.
La représentation spatiale,
le coup de foudre. Le coup de foudre, c'est le cerveau droit. Et un exemple, le Maurice Ravel, musicien fort connu, a fait une hémiplégie droite avec aphasie. Étant donné que les voix sont croisées, l'hémiplégie droite, on le sait, est due à une lésion du cerveau gauche. Et quand on lui jouait un air de musique et qu'on lui demandait ce que c'était, il était incapable de répondre, il comprenait pas la question, il avait pas la réponse. Mais s'il y avait une fausse note, il tressautait. Parce que le cerveau droit qui était intact se rappelait parfaitement. Bon. Eh bien, la suite que j'ai donnée à tout ça, d'ailleurs je n'étais pas le seul, c'est de comprendre que l'alphabétisation est enregistrée dans le cerveau gauche, que la méthode syllabique de lecture, B-A-B-A, etc., est une méthode analytique, et que la lecture, l'acquisition d'un registre lexical ne peuvent avoir lieu que dans le cerveau gauche, et par conséquent, il faut en passer par les méthodes analytiques, celles qui sont enregistrées précisément par le cerveau gauche, alors que la saisie globale d'une émotion, c'est le cerveau droit. Or, j'ai découvert, mais longtemps après que ce soit mis en œuvre, que maintenant on utilisait et qu'on justifiait la méthode globale d'apprentissage de la lecture, après des années...
Donc rappelons ce dont il s'agit d'une sorte de méthode, donc... dispenser aux enfants, qui leur permet de reconnaître les mots,
la forme des mots,
en fonction de leur forme.
Et
suppose
donc
une mémorisation très intense, mot par mot, mais qui ne permet plus de la décomposition, lettre par lettre, ni même alphabétique.
Exactement. Et comme elle ne permet pas la décomposition, elle ne permet pas la lecture d'un mot inconnu. On peut leur apprendre à reconnaître des mots qu'on leur a montrés plusieurs fois, etc. Mais ils ne peuvent pas déchiffrer un mot inconnu. Du reste, la méthode syllabique a été utilisée depuis l'invention des écritures il y a quelques millénaires. D'autre part, j'ai appris que, ça, je l'ai pas mentionné dans mes livres parce que je le savais pas à ce moment-là, que en France, au XVIe siècle, les jésuites apprenaient à lire aux enfants de leurs écoles des phrases latines.
En latin.
Oui.
C'est-à-dire dans une langue qu'ils ne parlaient pas
dans
et qu'ils ne comprenaient pas.
Dans une langue qu'ils ne comprenaient pas. Mais, grâce à la méthode syllabique, eh bien, ils déchiffraient parfaitement les mots et ils lisaient parfaitement les mots latins. Bien. Alors, ça démontre bien que cette méthode syllabique est celle qui est utilisée par le cerveau gauche pour déchiffrer un mot. Bien. Si on ne fait pas ça, les enfants n'enrichiront pas leur registre lexical. Par exemple, les Esquimaux ont 60 mots pour la neige.
Bien sûr.
Ce qui veut dire qu'ils voient des choses que nous ne voyons pas, nous. Puisqu'ils les nomment, ils les différencient, etc. Si on a un registre lexical étendu, on peut se connaître soi-même, connaître autrui, bénéficier des leçons de l'histoire, de toute une culture, etc. Si on a
Des nuances,
et bien
et
entendu,
donc une civilisation,
des nuances,
des sensibilités.
Voilà. Et si on a un registre lexical faible, on ne communique que très peu avec soi-même, encore moins avec autrui. Si on n'est pas d'accord avec autrui, on lui tape dessus, on ne sait pas ce que c'est vraiment qu'une personne.
C'est-à-dire que la violence est directement liée
Exactement.
À l'incapacité à s'exprimer,
Absolument.
À l'illettrisme.
Absolument. Elle ne permet pas d'envisager ce qu'est autrui, ni ce qu'on est soi-même, ce qu'on se doit et ce qu'on doit aux autres. Elle ne permet pas d'acquérir une culture, elle ne permet pas donc d'acquérir un sentiment d'appartenance non plus. Dans un pays, c'est extrêmement grave.
C'est un retour à une forme de tribalisme par mimétisme, on est sur le cerveau droit.
Exactement. Et on ne leur permet pas d'atteindre un véritable statut d'homo sapiens sapiens aux enfants auxquels on enseigne la méthode de Global. Alors, étant donné qu'on se bat depuis longtemps que dans les IUFM et les inspecteurs de l'éducation nationale, tout ça, ils traquent ceux qui veulent enseigner la méthode syllabique dans les écoles, il y a des ouvrages, Rachel Boutonnet, une institutrice qui a écrit un livre qui s'appelle « L'institutrice clandestine », bon, on s'est demandé pourquoi ils étaient si opposés. Eh bien, il y a un livre paru en 95, signé Pascal Bernardin, qui est un pseudonyme, parce que cet homme avait peur d'être puni, qui raconte que, là vous m'excuserez d'entrer dans un débat politique, mais que des syndicats d'extrême-gauche de plusieurs pays s'étaient réunis à l'UNESCO dans les années 60 pour décider qu'il fallait utiliser la méthode globale, et il y avait donc un dessin politique derrière, et il est évident maintenant, on fabrique des êtres idéologiquement manipulables. S'ils ne se connaissent pas eux-mêmes, s'ils ne connaissent pas autrui, s'ils ne peuvent pas évaluer les conséquences d'un geste, etc. Bon.
Et donc, ce que vous exprimez très bien dans cette analyse, c'est qu'effectivement, l'incapacité à exprimer des nuances ou à maîtriser une langue ou un effet de concentration, donc d'abstraction, crée une plasticité très grande, une capacité totalement manipulable parce qu'on n'est pas structuré.
Exactement. D'ailleurs, on n'apprend pas non plus à se critiquer soi-même. On n'apprend pas à critiquer autrui, on n'apprend pas à se critiquer soi-même. La notion même de critique échappe totalement. On est entièrement soumis. C'est comme le dressage d'un chien. On est dressable.
Ce qui est le contraire de l'enseignement.
Totalement de la communication d'une culture, d'une pensée autonome, d'un large vocabulaire, etc. Bien, c'est ça qu'on doit à des êtres humains et on leur refuse de cette façon. Alors ce combat est loin d'être terminé. J'étais content d'apprendre que Gilles de Robien a interdit la méthode globale, mais il y a eu une levée de boucliers dans toute une série d'associations et de syndicats en France, et actuellement il y a un véritable refus. Donc c'est toute une culture qui est en jeu. C'est donc en m'intéressant aux fonctions du cerveau que j'ai finalement compris l'importance de ce combat et que je le mène.
On peut dire qu'après ce triple combat, un combat pour votre pays dans la résistance, un combat pour la vie contre le cancer, il reste ce grand combat aussi à mener pour la transmission, pour l'éducation.
Oui, absolument. C'est fondamental et ce sont les enseignants qui doivent être au premier rang de ce combat. Mais je suis content de l'avoir dépisté un peu par hasard en m'intéressant aux fonctions du cerveau.
Professeur Lucien Israël, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.